Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. L'automne est arrivé à Toulouse et dans notre région, et avec lui, le mois d'octobre, un des plus prolifiques de l'année dans le domaine des événements musicaux, opéra, festival, concert, voilà tout ce que nous offre la très riche actualité de la semaine passée et de celle qui va suivre, raison pour laquelle je me suis encore entouré aujourd'hui de spécialistes pour la commenter et la présenter. Tout d'abord, le toujours fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de son alter ego Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Ce brillant duo encadre l'invité d'honneur de ce numéro, l'organiste Yves Rechsteiner, directeur artistique du festival Toulouse Les Orgues, dont la 24e édition vient tout juste de commencer. Nous allons largement en parler et présenter sa programmation en seconde partie d'émission avec Yves Rechsteiner. En attendant, nous allons tout de suite revenir sur l'actualité musicale de la semaine dernière avec Robert et Serge.
Mélomanie, retour arrière.
Et l'actualité passée, présente et même à venir, c'est Norma au Théâtre du Capitole, où le célèbre opéra de Vincenzo Bellini est encore à l'affiche jusqu'au 10 octobre. Il reste 4 représentations pour découvrir cette nouvelle production mise en scène par Anne Delbé. Nous sommes 2 dans ce studio à avoir assisté à au moins une des 4 premières séances, mais un seul a vu les 2 distributions et donc les 2 Norma présentées par le Capitole, Marina Rebecca et Clara Kolonitz. Celui qui a eu cette chance, c'est Robert Pénavert. Je vais donc lui donner la parole pour commencer. Avant que nous parlions des interprètes, Robert, si vous voulez bien, quelle est votre impression générale sur cette nouvelle production en ce qui concerne la mise en scène, les décors et la direction d'acteurs ?
Alors, pour moi, tout d'abord, Norma, c'est l'apogée du bel canto. C'est un chef-d'œuvre de la première à la dernière note. C'est un chef-d'œuvre également en termes de livret. Voir Norma, déjà, est un grand privilège, d'autant qu'au Théâtre du Capitole, cela fait 40 ans que cela n'avait pas été donné. Alors pourquoi ce n'était pas donné ? Parce que tout simplement, les interprètes de Norma du rôle-titre sont évidemment extrêmement rares, vu la difficulté de cet ouvrage. Donc, premièrement, moi, je suis très heureux que Christophe Christy ait affiché Norma pour ouvrir la saison 19-20 du Théâtre du Capitole. Ensuite, il le fait dans le cadre d'une nouvelle production avec 2 castes. Donc, effectivement, Eric, je suis allé voir les 2, non pas parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais parce que j'en avais très envie. Et mon avis est partagé sur ce spectacle. D'un côté, il y a production, nous allons y revenir. D'autre côté, il y a l'orchestre, le chœur et les interprètes qui sont remarquables. Et je regrette beaucoup que cette production ait un peu embrouillé tout le monde. Voilà. On va d'abord évacuer ce qui, à mon sens, n'est pas très intéressant. C'est cette production qui est due à une comédienne de théâtre qui a l'habitude de jouer Phèdre, qui a l'habitude de jouer Racine, Corneille, etc., Claudel. Bon. Et elle nous fait quelque chose, franchement, qui s'apparente un peu au réglage d'entrée et de sortie, avec des pauses convenues. Et en plus, elle introduit un personnage qui n'est pas évidemment dans le livret de Fetty Sherman, hein, mais le personnage du cerf blanc.
Du cerf, oui. Alors je suis voilà, un peu dubitatif aussi sur
Je pense que si vous n'avez pas.
Sur cette apparition.
Si vous n'êtes pas titulaire du thèse doctorat de 3e cycle sur la mystique celte.
Gauloise, oui.
Vous passez à côté. Voilà. Et à vrai dire, j'ai beau lire et relire les notes d'intention de cette dame, ben j'ai toujours pas compris, je crois que je ne suis pas le seul.
Je peux vous confirmer que beaucoup de personnes ont été un peu déstabilisées par
voilà.
Alors qui plus est,
ce personnage de cerf blanc, bon, si ça avait été une projection, bon, à la limite un peu anodine, un fond de panoramique, etc. Non, c'est un comédien.
Un comédien.
Avec évidemment un casque avec des cornes, bon, enfin voilà, que vous imaginez. Et avait une cape blanche en plume. Et qui se balade comme s'il descendait le grand escalier du Casino de Paris. Bon, en se déhanchant, enfin, etc. Enfin, quand on est en plein au milieu d'une tragédie comme Norma, on a un peu de mal à raccrocher les wagons, franchement. Et qui plus est, et ça c'est encore plus grave, la production fait parler un barde
ça, je voulais
sur la musique oui. de Bellini. Et ça, non, ça, alors ça, franchement, on tend, bon, le cerf blanc, à la limite, on ferme les yeux, on le voit pas. Mais le restant, on est bien obligé, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors évidemment, il parle dans les moments les plus doux, dans les moments qui évoquent la lune, etc. Et tout d'un coup, bing, on entend un barde qui parle, il dit des choses, mais alors on comprend, c'est en français, bien sûr, hein, mais on n'arrive pas à raccrocher. Et donc, ça distrait de tout. Ça, c'est une erreur grossière.
Je me suis mis à la place des gens qui n'avaient jamais vu Norma.
Oui.
Et qui voient ça, qui doivent se dire, mais c'est dedans ou pas ? Ça
oui.
y est ou pas ?
D'ailleurs, à l'entracte, on m'a posé mille fois la question.
Évidemment.
On m'a dit, mais c'est quoi ? On n'avait pas compris dans l'histoire. Mais c'est normal, dans l'histoire, ça y est pas.
Bah,
Donc, venons-en, si vous voulez bien, Eric, à l'essentiel.
Vous en mourrez
d'envie. Norma. Alors, la première, Marina Rebecca, qui a déjà chanté Norma au Métropolitain, qui l'a chanté bon, un peu partout. Alors là, nous avons affaire à ce qu'on appelle les grands dramatiques d'agilité, c'est-à-dire c'est une cantatrice qui a deux octaves dans la voix, mais bien appuyée, bien, voilà, etc., qui fait de très belles demi-teintes, qui vocalise bien, mais qui est un peu avec des aigus, et globalement l'émission du haut médium et de l'aigu est un peu musclée. Je trouve que ça manque de naturel. Voilà, elle rappelle un peu Nilsson, par certains moments, la jeune Nilsson, bon, mais c'est très beau quand même ce qu'elle fait. Puis elle arrive au bout avec une facilité incroyable, elle domine le chœur, elle domine l'orchestre dans le final. Bon, en fait, on entend qu'elle est très clairement. Hein. Donc ça, c'est très impressionnant. Marina Rebecca, c'est très beau. J'imagine que Christophe Christie n'aurait pas programmé Norma.
Oui, s'il n'avait pas eu cette Norma-là.
La deuxième Norma, alors là, c'est là, pour moi, c'est une découverte.
C'est la révélation.
C'est foudroyable.
Ouais,
Eric,
ouais.
On était là.
Ah oui, c'était formidable.
Voilà. Alors, c'est une Hongroise qui est en troupe depuis des années, à l'Opéra d'État de Budapest. Alors, pourquoi, à ce niveau-là, elle ne sort pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui la retient. Alors oui, évidemment, elle est venue à Toulouse, bien sûr, mais c'est rarissime. C'est la première fois que je chante en France.
Oui, c'est Christophe Gressier qui l'avait entendu.
Qui l'avait entendu,
qui a voulu la voir absolument.
Ouais. Bon, mais il y en a d'autres qui ont dû l'entendre.
Oui.
C'est impossible autrement.
Bah oui, oui.
Alors cela dit, les Hongrois sont ravis de la voir en permanence à dans leur opéra à Budapest.
Mais à leur place.
Où elle chante quand même Marguerite de Valois, où elle chante Constance de l'enlèvement au sérail, où elle chante également, pour aller encore au plus haut, La Reine de la Nuit. Voilà, donc elle chante évidemment les Puritelles, la Traviata. Elle leur chante ça toute l'année. Puisque c'est une troupe, ils chantent tous les soirs. Hein. Mais bon, Clara Colonis ne fait que les premiers rôles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? On a une voix. Autant Marina Rebecca, par certains accents, peut rappeler la jeune Nilsson, ce qui n'est pas forcément un défaut, entendons-nous bien. Et c'est simplement ces aigus spinto qu'elle donne comme ça, qui rappellent un peu la vibration de Mary Nilsson. Elle, par contre, rappelle très clairement plutôt John Sutherland. C'est-à-dire avec cette rondeur d'émission, ce velouté, cette musicalité, ce souffle, la largeur du phrasé, la science de l'ornementation. C'est merveilleux. En plus, ça nous fait rentrer immédiatement en empathie avec le
personnage.
Rôle.
Oui.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Marina Rebecca, qui la joue très tragédienne. Du français.
Oui.
Quoi. Voilà, un peu certainement ce qu'il a demandé de faire.
On peut l'imaginer, oui.
Vraisemblablement. Alors que peut-être le fait que Clara Colosi n'ait pas pu faire exactement ce que lui avait demandé la metteur en scène, lui a permis de faire une autre approche finalement plus sensible du personnage. Mais enfin, vocalement, c'est merveilleux. Voilà, c'est une immense découverte. Donc, et nous espérons tous, évidemment, que nous la reverrons, bien sûr.
Mais déjà, on peut la revoir ce dimanche, puisque la seconde distribution se produit ce dimanche 6 octobre à 15h avec Clara Kolonits. Donc,
voilà. Puisqu'en fait, elle n'a fait que 2 sur les 8.
Oui, il n'y en a que 2 sur les 8. C'est pas partagé, c'est pas 4 et 4, hein, c'est 6
voilà.
et 2.
Par contre, alors, ceux qui font tout, c'est donc
Karine Deshaies et Héram Hernandez.
Karine Deshaies dans le rôle d'Adalgise, bon, qui est quand même un peu moins lourd que celui de Norma, hein, mais enfin qui
est important
quand même.
Hein,
c'est important, bien évidemment. Hein. Voilà, alors Karine Deshaies, que l'on retrouve quand même un peu au mieux de sa forme, parce que sa dernière Charlotte
vous aviez
de Werther,
été un peu
au Théâtre du Capitole,
réservée sur sa performance,
même,
oui.
On avait des raisons d'être réservés. Voilà. Là, il semblerait qu'elle soit mieux.
Moi, j'ai trouvé très bien.
C'est mieux écrit, la partition est mieux pour sa voix.
Pour sa voix, sans doute.
Aujourd'hui.
C'est un rôle qu'elle tient depuis longtemps.
C'est un rôle qu'elle
connaît très bien.
Voilà, voilà. Mais toujours pareil avec Karine Deshaies, cette volonté, alors je ne sais pas si c'est une volonté ou c'est autre chose, hein, mais de donner les aigus spinto en permanence, mais très fort, très fort, très fort, à tel point que dans les duos, les deux somptueux duos de la Norma, elle a couvert
Karine Deshaies.
Ouais. Voilà. Ce qui est quand même dommage, Clara Colonis qui s'évertuait à nuancer, etc. Et Karine Dey, bim, envoyée, mais alors plein pot. Bon, alors en même temps, elle chante tous les soirs, quoi, quasiment, ou à quelque chose de près. Donc, bon, elle va assurer le coup. Il faut lui rendre grâce quand même. Mais là où elle est le mieux, c'est quand même dans son air d'entrée, quoi. Voilà. Et ensuite, le ténor, donc toujours le même, Aira Hernandez, qui nous avait fait un magnifique Alfredo de la Traviata l'année dernière au Théâtre du Capitole. Et là, il assure ça avec une technique formidable.
Vocalement, il n'y a pas grand-chose à redire. Oui,
alors,
oui.
Comme malheureusement, il a été décidé, certainement par le chef d'orchestre, que la cabalette du ténor n'était pas reprise, alors que normalement, elle est reprise pour qu'elle soit ordée. Donc ben là, elle n'est donnée qu'une fois. Mais alors du coup, il orne la première fois. Voilà, donc ça c'est assez extraordinaire. Voilà. Mais il est très bien, il a un jeu de scène qui est tout à fait convaincant, il est un joli personnage, il a un très beau timbre, c'est un très beau Pollion, franchement un très beau Pollion. Après, je suis un peu plus nuancé sur les deux Oroves.
Oroves,
oui. Oui, voilà. Bon,
Et on ne parle pas de Flavio.
Non,
on n'en parle pas.
On n'en parle pas. Voilà. Mais bon, je ne veux pas dire les deux Oroves, Balinchabo. C'est bien, mais avec un timbre qui manque d'italianité, un peu de profondeur, de creux dans le grave. Bon, Oroveso, c'est quand même le patron des druides. Hein. Bon,
et puis c'est le patriarche aussi.
C'est le patriarche, ouais. Il a besoin d'avoir une stature vocale.
Il faut qu'il y ait un charisme aussi.
Voilà. Et là, bon, pas tout à fait le cas, même si c'est bien chanté, mais,
oui.
Mais ça ne révolutionne pas. Julien Véronèse, alors là, pour le coup, nous étions ensemble. Mmh. Alors, Eric jouait à se parler là-dessus, puisque...
Moi, vocalement, je trouve qu'il a fait une performance assez correcte. Par contre, je trouve qu'il incarne pas le rôle, quoi. Voilà. Mmh. C'est-à-dire, il a pas le charisme pour ce rôle. C'est mon avis. Je sais pas si c'est le vôtre aussi.
Oui,
je sais que vocalement, vous êtes beaucoup plus réservé que moi, je crois.
Oui.
Bon.
Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est...
Mais on n'y croit pas trop,
je
trouve.
C'est une basse, un baryton.
Oui.
Julien Véronèse, j'ai l'impression, est en train de se chercher.
Oui, ça c'est...
Entre les deux tessitures, d'ailleurs, sur sa fiche technique, il est baryton-basse.
Baryton-basse, oui.
Ou basse-baryton, enfin bon, peu importe. Voilà, bon, il y a un peu hiatus là-dessus. C'est, effectivement, vous avez raison, c'est pas mal ce qu'il a fait, mais on y croit que du bout
non,
de l'oreille, quoi. Voilà,
voilà son rôle...
Voilà,
il n'incarne pas pour moi le Roveso,
ensuite,
c'est pas pour lui.
Bon. Un chef d'orchestre extrêmement dynamique.
Moi j'ai beaucoup aimé la direction d'orchestre.
Oui, mais qui fait flamber cette partition, qui lui donne tout le poids nécessaire
dans
les moments
très bien.
Qu'il faut. qui, bon, bah, parce qu'il y a certains moments qui sont un peu quand même, on n'a pas besoin de s'apesantir dessus, et donc il les gomme assez vaillamment, et donc bah, ça c'est très bien vu.
Et puis il tient très bien l'orchestre.
C'est la première fois qu'il dirige au Théâtre du Capitole, ouais. Et vraiment,
non, très bien.
Dans ce répertoire, ouais. Très bien. Et puis il y a les chœurs.
Les chœurs magnifiques.
Les chœurs, alors les chœurs sous la direction d'Alfonso Cayani, alors là c'est.
Non, c'est
là,
remarquable.
Ils sont au mieux, ah, oui. Au mieux de leur forme. Alors quand on connaît la saison à venir pour eux, alors pas forcément le dialogue des Carmélites, hein, mais quand on pense à Parsifal, à Méphistophélé, bon, et qu'on se dit qu'on a ces chœurs. Ah, c'est déjà un grand bonheur à venir.
On salue souvent leur performance, et encore, ils ont été vraiment au top. Hein.
Non, mais ça, on a, je pense, l'un des, avec l'Opéra de Paris, l'un des deux ou trois meilleurs chœurs de théâtre français, franchement. Hein.
Merci pour tous ces commentaires, toutes ces appréciations, et bien pour vous donner un aperçu de ce que l'on peut entendre au Théâtre du Capitole ces jours-ci. Et j'espère que ça va vous donner envie d'y aller. Voici un extrait de Norma capté lors de la première représentation, un des deux duos entre Marina Rebecca et Karine Dey.
Oh,
Le duo Marina Rebecca Karine Dehaye dans cet extrait de Norma capté lors de la première de cette nouvelle production de l'opéra de Bellini au Théâtre du Capitole. Il reste 4 représentations pour la découvrir les 5, 6, 8 et 10 octobre. Ne ratez surtout pas cette occasion. Nous allons maintenant passer à un registre très différent en revenant sur la 3e édition de Rendez-vous Musical, ce concert annuel organisé avec le soutien de l'association Édition W par le compositeur Vincent Joquin, notre invité de la semaine dernière. Il a eu lieu mardi à Saint-Pierre-des-Cuisines et nous y avons assisté Serge Chosy et moi-même, 17 musiciens sur le plateau pour un programme d'une 20aine de pièces de genre et de formes variées mais courtes, comme le veut le concept de Rendez-vous Musical. Pour ma part, moi j'ai passé une très bonne soirée et fait de belles découvertes. Est-ce que c'est aussi votre cas, Serge?
Ah oui, c'est chaque fois une espèce de palette particulière que peint en quelque sorte Vincent Joquin, puisqu'il est à la fois compositeur, pianiste et arrangeur. Et donc, il compose son programme avec, comme vous avez dit, des pièces courtes, voire très courtes, mais qu'il réarrange, qu'il modifie, et donc pour donner une espèce d'unité. Et puis il a un talent d'organiser ses concerts de manière très particulière. L'année dernière, c'était d'une autre tenue, là c'est différent. Et il a réalisé une ouverture et puis des tableaux. Premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau.
Vous parlez de peinture, c'est un peu ça, c'est une composition, ouais. On imagine un peintre devant sa toile.
Tout à fait. D'abord, il faut quand même parler des musiciens. Ce sont quand même des musiciens, de grands musiciens, oui, auxquels il fait appel. Alors, il avait un ensemble à cordes de 11 musiciens,
oui,
si je me souviens bien.
Oui, 11, c'est ça.
Et qui proviennent à la fois de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, de
l'Orchestre
Occitania également. Donc, c'est des musiciens professionnels de grande qualité. Et puis, pour les vents, alors là, c'était exclusivement l'Orchestre National du Capitole, avec quand même les meilleurs, avec David Minetti comme clarinettiste, avec Hugo Blacher comme trompette solo, Benoît Huy comme corniste,
encore, oui,
et Hugo Buchaillet, pas Hugo...
Thibaut Buchaillet,
aux percussions. Aux percussions, donc 4 musiciens bien connus.
C'était très solide et très bon.
Oui. Ah oui, excellent, oui. Vraiment excellent. Et donc, on a assisté à cette espèce de, comment dire, on pourrait dire tableau d'une exposition, en quelque sorte, au cours de cette soirée, avec en ouverture uniquement des musiques de films. Et donc, on a entendu des musiques Retour vers le futur de Silvestri et puis Harry Potter de John Williams. Et entre les deux, une allusion au Magicien d'Oz, initié au piano par Vincent Joquin lui-même, le fameux Over the Rainbow.
Qui n'était pas prévu au programme.
Non, qui n'était pas inscrit dans le programme.
Sans doute pour faire une liaison entre les deux musiques de films. D'ailleurs, 3 musiques de films fantastiques. C'est peut-être un hasard,
Et puis, il faut préciser qu'il y a une infrastructure intéressante, c'est-à-dire on projette sur un écran les œuvres qui sont en train d'être
joué. Ça, c'est très appréciable.
Et ça, c'est très bien, parce qu'on sait vraiment où on se retrouve dans le cadre du programme. Donc, c'était très bien. Alors, il y avait un deuxième tableau avec un extrait de l'Arlésienne de Bizet, pour laquelle il a écrit un solo de clarinette. Donc, David Minetti était de nouveau là. Puis, il y a eu quand même une création d'une œuvre d'un compositeur contemporain qui s'appelle Stéphane Delplace. Et cette composition est une marche funèbre. Et là, l'instrument soliste était la flûte. La flûte, excellente flûtiste qui est professeure au Conservatoire de Toulouse. Vraiment que l'on est heureux de réentendre.
Simonsky.
C'est Alice Simonsky qui a vraiment un talent particulier.
Ah oui, c'est une très belle
flûtiste. Une fluidité dans son jeu qui est tout à fait magnifique. Alors, je pensais à ce que disait Robert tout à l'heure de Karine Dehaye. Elle fait des aigus de filets d'une beauté tout à fait exceptionnelle. Donc, très, très beau. Donc, il y a eu ça. Il y a eu également pas mal d'œuvres de Vincent Joquin.
C'est 50
œuvres. 5 œuvres, oui.
Dont des créations
mondiales.
Une création mondiale,
Les
créations françaises et créations mondiales.
Il y avait notamment un trio à cordes qui s'appelle Puer Natus Est Nobis. Donc,
c'est du latin, je crois que c'est un enfant nous est né.
Un enfant nous est né, c'est exactement ça. Un enfant nous est né, que j'ai trouvé très sensible et très émouvante comme pièce.
Je peux me tromper, mais je pense qu'il a dû composer ça à l'occasion de la naissance de son fils. Voilà. Donc il a dû mettre beaucoup de lui-même dedans.
C'est très possible. Puis il a également composé et créé en création française ce soir-là un quintet clarinette et cordes. Alors là, on peut penser à Mozart, hein. Peut-être aussi à Brahms.
Oui, c'est un de ses maîtres, Mozart.
Il y a eu de grands... Oui, mais Mozart, oui, effectivement. Donc, avec évidemment comme soliste encore David Minetti. Puis, il y a eu diverses œuvres dont je voudrais souligner cette aria d'une cantate de Bach pour laquelle Hugo Blacher, trompettiste, jouait l'air de cette cantate et c'était vraiment magnifique. Il a fait ça avec beaucoup de goût, de retenue, de finesse, donc c'était vraiment très bien. Puis on a eu droit à un mouvement de concerto de Mozart, le fameux 21e, le Andante, dont le soliste était évidemment Vincent Joquin. Et puis des tas d'autres œuvres dont deux qui se sont succédés avec la même formation, la flûte et le cor de basset, qui contrairement à son nom n'est pas du tout un cor, c'est une clarinette basse, et donc c'était encore David Minetti et la flûtiste de la soirée, qui ont joué d'abord une petite gigue, eine kleine gigue,
il faut de Mozart, dire,
c'était oui. Un allemand, de Mozart, et puis une pièce dont je crois on avait écouté un extrait la dernière fois,
Farfalle,
de Vincent Joquin, qui s'appelle Farfalle,
c'est-à-dire papillon, bah, c'est une musique qui papillonne.
Voilà. Très beau, très beau, c'est oui, du haut, très plein très d'esprit, agréable. Très amusant, donc vraiment intéressant. Et puis, etc. Et alors, finalement, on a terminé la soirée avec le fameux Tahiti Trot de Shostakovich. Alors, ça, c'était le Tutti, l'ensemble de l'orchestre, avec le fameux Tifortou.
Oui, inspiré du Tifortou, tout le monde connaît.
Donc, beaucoup d'esprit. Et puis, cette pièce finale, qui était encore de Vincent Joquin, moi, qui m'a vraiment réjoui, qui s'appelle « La marche des petits soldats de bois », pas de plomb, de bois. Oui. Et donc, avec une introduction de la caisse claire, qui évoquait quand même furieusement le boléro de Ravel.
C'est plus qu'une évocation, quoi.
Ah oui, c'était comme, vraiment...
Une longue citation.
Une citation.
Une longue citation du boléro.
Et ça a eu un succès extraordinaire, donc évidemment.
Ils ont reconnu tout de suite, d'ailleurs, pensant que c'était ça, que c'était le boléro qui commençait.
Il y a eu un murmure dans la salle, l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines.
Oui, c'était bien rempli, qui était bien rempli.
Bien rempli, oui. Et on a eu droit à un bis, qui avait un petit lien distant avec Toulouse, puisque c'était... Por una cabeza de Carlos Gardel, qui est un Toulousain d'origine et qui a fait carrière, comme on le sait, en Argentine, avec le succès que l'on connaît.
Voilà, donc ça attire, je pense, un nouveau public, parce qu'il y a des gens qu'on
nouveau
voit
public,
pas ailleurs.
Nouveau public, il y a beaucoup de jeunes.
Hein. Oui, beaucoup de jeunes,
donc,
notamment.
Ça fait plaisir que les têtes blanches ne soient pas les seules à assister au concert.
Vous avez bien raison. Bon, on en fait partie des têtes blanches maintenant, ça veut dire. Mais pour saluer Vincent Joquin et le remercier d'organiser ce bel événement original, nous allons écouter une œuvre de sa composition, Nos âmes mortes, une de celles qui ont été jouées mardi soir à Saint-Pierre des Cuisines lors de la 3e édition de Rendez-vous musical. Nos âmes mortes, pièce composée par Vincent Joquin, le fondateur et directeur artistique de Rendez-vous musical, dont la 3e édition a eu lieu mardi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ce fut une belle soirée de musique, précédée la veille par le concert de clôture de piano jacobin à la Halle aux Grains. Et pour refermer le 40e chapitre du festival, Catherine Dargoubet et Paul Arnaud Péjouan avaient invité un habitué, un des musiciens qu'on y a le plus souvent entendu, le grand pianiste russe Boris Berezovsky. Vous étiez présent à son récital, Serge. Alors, est-ce que cette 40e édition de Piano Jacobin s'est terminée en beauté?
Ah, tout à fait, brillamment on peut dire, parce que Boris Berezovsky est une force de la nature, un colosse. Son piano est capable des plus infimes douceurs, donc c'est vraiment un grand pianiste qui a déjà joué d'ailleurs avec l'Orchestre National du Capitole,
oui.
en concerto, donc c'est vraiment un artiste qui est très habitué à venir à Toulouse. Et donc là j'ai même noté, c'était l'ouragan Boris Berezovsky. Alors il a un peu bousculé le programme qui était initialement prévu, pour consacrer toute la première partie à un compositeur que pour ma part j'adore et qui est Alexandre Scriabine. Toute la première partie, c'était une espèce de medley de pièces de Scriabine avec deux sonates, mais on sait que les sonates de Scriabine sont très courtes, hein, avec deux poèmes, avec des pièces qui ont des titres toujours incroyables chez Scriabine. Désir, caresse dansée, fragilité, voilà les titres de ces pièces. Et puis quelques études, il a joué trois études aussi, le tout enchaîné, il en a fait vraiment comme une grande œuvre. Et c'était magnifiquement fait, parce que vraiment, c'est un technicien de la couleur au piano. Hein. Il a fait ça de manière tout à fait magnifique, avec une fluidité du jeu qui est incroyable. Alors, c'est très important qu'il y ait de la couleur quand on joue Scriabine, puisque vous savez peut-être que Scriabine avait inventé ce qu'il a appelé un clavier à lumière. Et donc, il devait être utilisé pendant ses œuvres, et notamment ses œuvres symphoniques, comme le poème de l'Extase ou Prométhée. Et donc, là, il y avait de la couleur dans le jeu du pianiste. Hein. Les nuances étaient extrêmes. Ça partait de la brise légère pour aller jusqu'à l'éruption volcanique. Donc, c'était tout à fait impressionnant. Et en deuxième partie, il a consacré à des œuvres de Rachmaninov, mais des transcriptions faites par Rachmaninov sur d'autres œuvres. Ainsi, il a commencé par la troisième partita pour violon de Bach, mais donc transcrite par Rachmaninov, puis le scherzo du songe d'une nuit d'été, toujours par Rachmaninov, bien que ce soit de Mendelssohn. Et puis, alors, il y a eu cette magnifique lied de la belle meunière de Schubert, Das Bächlein, le ruisseau. Et là, vraiment, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Déjà, la transcription de Rachmaninov est tout à fait touchante, hein, mais avec son jeu, on évoquait vraiment le ruissellement de ce fameux ruisseau. Magnifique, avec du Kreisler aussi, et puis la fameuse berceuse de Tchaïkovski que Rachmaninov a transcrite. Et puis quand même, il a joué une œuvre consistante de Rachmaninov, sa deuxième sonate, en trois mouvements, qui était flamboyante. Hein. Donc c'était vraiment un grand, grand, grand concert final, un succès fou. Il a joué quand même à semi-bis deux autres études de Scriabine. Alors, là aussi, une espèce de lame de fond qui balait toute la halle. C'était vraiment un magnifique récital.
Et donc, bah, une belle fin pour cette 40e édition dont Boris Berezovsky sera le dernier pianiste dont nous aurons parlé. C'est la fin de la première partie de ce numéro. Petite pause avant d'aborder la seconde avec notre invité d'honneur, l'organiste Yves Rechsteiner, directeur artistique du Festival Toulouse des Orgues. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La seconde partie de Mélomanie, l'agenda avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec l'invité d'honneur de ce numéro, l'organiste Yves Rechsteiner, directeur artistique du Festival Toulouse des Orgues. La 24e édition a commencé mardi, en fait plutôt mercredi, avec le concert d'ouverture donné à la Basilique Saint-Sernin sur le grand orgue Cavaillé-Coll à quatre mains par Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun. Et ce n'est certainement pas par hasard qu'il y avait une femme dans ce duo, puisque cette année, le festival a pour thématique les femmes et l'orgue, l'orgue au féminin, la place de la femme dans le monde de l'orgue. Alors dites-moi Yves Rechsteiner, est-ce que c'est un sujet que vous souhaitiez aborder depuis longtemps, ou alors s'est-il imposé parce que les choses sont en train de bouger et qu'arrive une nouvelle génération d'organistes dans laquelle les femmes sont très présentes?
On va dire qu'effectivement, le contexte actuel du monde dans lequel nous vivons était favorable à cette thématique. Et d'ailleurs, j'ai découvert après coup que j'avais eu à peu près la même idée que la plupart des institutions culturelles, beaucoup à Toulouse, qui ont effectivement aussi par hasard choisi en 2019 une thématique liée à la femme. Voilà, je pense que ce sont les choses qui se retrouvent. Effectivement, le monde de l'orgue est masculin tout simplement par son histoire liée à la religion, où on sait que l'homme, évidemment, a un rôle prépondérant dans le passé. Et c'était intéressant de mettre cette thématique dont je m'empresse de dire qu'elle peut avoir un côté un peu glissant. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Oui, les femmes, enfin quand même. Et la qualité, vous en parlez. Donc, je sais ces risques-là. Malgré tout, je pense qu'il était important que justement, on tente à rééquilibrer certaines choses sur un plan de la présence des artistes. Il y a effectivement de très très belles organistes femmes qui font peut-être des carrières un tout petit peu plus discrètes. Là, dans le week-end 100% féminin qui est devant nous samedi et dimanche, il y a un exemple particulier, Michel Guillard, qui a déjà, je crois, passé 70 ans et qui est une brillante pianiste aussi à la base. C'est quelqu'un, on va dire, qui a eu une carrière d'organiste extrêmement discrète. Et pourtant, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais quelle musicienne, mais quel talent et quel naturel dans le phrasé et tout ça. Eh bien oui, il faut qu'elle ait toute sa place dans un festival comme le nôtre, dont nous connaissons justement le rayonnement et puis la présence. Et voilà, donc je trouvais que faire un festival autour de la femme dans le monde de l'orgue, c'était c'était à la fois l'occasion de rappeler le rôle discret des femmes, quelquefois, dans les tribunes d'orgue, où elles remplaçaient leur mari, chose que j'ai découvert récemment. Évidemment, la place de certaines compositrices, qui ont quand même laissé pas mal d'œuvres qui, là, seront évidemment mises un peu à l'honneur. Et justement, vous l'avez dit, Eric, un peu une nouvelle génération de jeunes femmes. Alors, je ne peux que le constater, pas mal venues de Russie, évidemment venues aussi des pays d'Asie.
Ouais, d'Asie du Sud-Est.
On connaît évidemment le phénomène du Japon depuis plus de 20 ans, la Corée également pas mal, énormément de femmes, hein, très 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 largement majoritaires de tous ces pays-là. Mais effectivement, depuis quelques années, je vois beaucoup de jeunes organistes russes, souvent des pianistes à la base, qui ont une double formation et qui vraiment ont un appétit de faire une carrière, qui sont très 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 engagés, et dont nous aurons d'ailleurs deux représentantes à la Nuit de l'Orgue le 12 octobre.
Serge Chosy voulait préciser quelque chose.
Il faut rappeler quand même une figure emblématique qui était Marie-Claire Alain.
Oui, bien sûr.
Elle a eu un rôle extraordinaire dans la propagation de l'orgue.
The first lady of the organ, comme disaient les Anglais. Et oui, elle a incarné l'orgue, mais non seulement en France,
mais
évidemment, sur un plan. C'était vraiment c'était Madame Orgue sur un plan international. C'était très impressionnant. Ouais. Et elle avait une carrière de staccanoviste. Elle jouait, mais à une densité phénoménale. Elle donnait des concerts tout le temps. C'était très, très impressionnant.
Et vous parliez donc de cette génération de pianistes asiatiques et russe, femme donc, qui arrivait dans le monde de l'orgue. Est-ce qu'on constate cette tendance dans nos conservatoires français ?
Alors, si vous voulez, il y a un phénomène intéressant qu'il faudrait étudier, parce que pour l'instant, je ne le vois que par le petit bout de la lorgnette, qui est celui de mon rôle de professeur à Lyon. En réalité, la parité existe dans les classes de conservatoire. Je parle en tout cas de Lyon, hein, globalement, il y a autant de garçons que de filles. Je pense que c'est après que ça se joue.
Ouais.
Et en disant ça, je rejoins des statistiques sociologiques qui concernent tout à fait d'autres métiers que la musique. En réalité, si on peut parler d'inégalité et d'une forme de discrimination, c'est après. C'est à l'entrée sur le marché du monde du travail, où effectivement, il y a beaucoup de jeunes diplômés en orgue qui vont finalement avoir des carrières beaucoup plus discrètes. Alors après, évidemment, chacun bâtit sa carrière. Dieu merci, le monde musical est assez riche pour que les talents de chacun puissent s'exprimer tantôt dans des rôles de soliste sur scène, tantôt dans un rôle pédagogique dans un conservatoire. Enfin voilà, la musique offre quand même beaucoup de débouchés. Mais il y a effectivement peut-être une présence féminine moins marquée au niveau des concerts, qui est effectivement une activité qui est très exigeante en déplacement, en temps, en disponibilité.
Ouais, ouais.
Je pense qu'il y a là un rapport entre les deux.
Alors donc, il y a eu le vrai départ de Toulouse des Orgues, ça a été mercredi avec le concert d'ouverture, où vous avez donc Saint-Sernin rempli, et vous avez même refusé du monde, mais refusé du monde, pas quelques personnes, beaucoup.
Le festival part très fort, j'en suis moi-même surpris, mais effectivement, les deux premiers jours, presque complet dès la veille et l'avant-veille. Et donc, j'espère que cette dynamique va se maintenir. Mais une chose que je constate, c'est que le visuel du festival cette année est très présent. On voit très, très bien les affiches.
Oui. Il attire l'œil.
Voilà, il y a un côté...
Il intrigue.
Pétillant. Ouais. Et alors, c'est un des aspects de la communication, mais je pense aussi, alors qu'en termes de contenu, il semblerait que les programmes que j'ai choisis aient un écho favorable auprès du public. Je m'en réjouis.
Oui, puisque ce concert d'ouverture, donc, je le rappelle, donné par Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun à quatre mains sur le grand Cavaillé-École de Saint-Sernin, il y avait la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et puis l'Arlésienne de Bizet. Et bien, je propose qu'on écoute tout de suite de l'orgue dans cette émission. Et donc, une des pièces jouées mercredi à quatre mains par Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun à Saint-Sernin, la très connue farandole de l'Arlésienne de Georges Bizet.
Thank you.
La farandole de l'Arlésienne de Georges Bizet, interprétée à quatre mains par Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun, le duo d'organistes qui a donné mercredi à la Basilique Saint-Sernin le concert d'ouverture de cette 24e édition de Toulouse les Orgues. Alors, si l'on revient au thème de ce millésime 2019, les femmes et l'orgue, comment va-t-il se décliner et s'illustrer tout au long du festival ?
Trois axes. Le premier, c'est justement ce week-end. C'est un week-end presque 100% féminin et j'ai voulu symboliquement couvrir un peu toute l'histoire de la musique. Alors, c'est évidemment un peu prétentieux en un week-end, mais on commence avec un récital d'organetto avec de la musique médiévale. Donc, Catalina Vicens, qui est une très talentueuse chilienne qui vit en Suisse, viendra donc faire de la musique médiévale sur son organetto. Ensuite, alors, un récital qui a une valeur symbolique, c'est Yasuko Bouvard qui consacrera sa carte blanche. Je lui ai simplement dit, écoute Yasuko, tu joues où tu veux, ce que tu veux. Et elle a choisi l'orgue de Saint-Pierre des Chartreux. Dont elle est titulaire. Pour des polyphonies du 17e, avec évidemment Yasuko, avec toute l'élégance qui la caractérise. C'est associé le partenariat surprise de quelques-uns de ses amis musiciens. Donc vous verrez demain
samedi. On
n'en dira pas plus, mais en tout cas, ce sera un concert très chaleureux.
À 17h, donc ce samedi 5 octobre.
Voilà. Et le soir, un récital justement donc, de Michel Guillard, dont j'ai déjà parlé. Et ça se terminera par Malvina Meynier, qui fait de la musique pop et qui compose des chansons un peu dans le style de Björk à 22h30 au Jésus. Alors, il y a pas mal d'autres choses. Il y a une table ronde sur la place
Important.
De la femme, samedi matin. Il y a des ateliers sur la facture d'orgue. Il y a Claire Subiette qui dirige le chœur étudiant au concert brunch après la messe à Saint-Sernin. Et tout ça se termine, alors je ne vais pas vous assommer avec le détail, mais ça se termine par un concert un petit peu plus prestigieux, l'ensemble In Convito, dirigé par Maud Graton depuis un orgue, grand orgue positif, à Saint-Pierre-des-Cuisines pour des concertos de Händel, des concertos pour orgue de Händel. Et je rappelle donc que les concertos de orgue pour Händel étaient donnés dans un cadre très particulier, c'était des moments musicaux d'intermède d'opéra. Donc en fait, Händel jouait ses concertos pour faire les pauses au milieu de ses propres opéras. Et donc, ce sont des pièces comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, qui sont écrites de façon très particulière, parce que comme il jouait lui-même, il écrivait avec la moitié des notes, parce qu'évidemment, il s'en fichait de devoir tout écrire. Ce qui fait que ça, la musique, en fait, il y a des moments donnés, il y a des trous, c'est marqué ad libitum. Ça veut dire jouer un peu, s'il vous plaît, tout seul.
Débrouillez-vous.
Et puis l'orchestre récupère 3 mesures après. Et donc, ce sont des partitions à compléter. C'est tout à fait étonnant dans l'histoire de la musique. Donc, voilà, nous aurons Maud Graton qui proposera quelques-uns de ses concertos dans sa version. Et à ma demande, elle a invité un jeune ténor à faire des airs d'opéra, justement, pour reconstituer un tout petit peu cette alternance musique d'opéra et concerto pour orgue.
Alors, vous avez parlé des conférences, tables rondes, rencontres qui vont avoir lieu à la librairie Ombre Blanche, et je voudrais qu'on parle de quelqu'un qui me semble important, qu'il faut citer, c'est Marie Balthazar.
Absolument. Alors, Marie Balthazar, c'est quelqu'un qui est sociologue, ethnologue, et en fait, ça fait 15 ans qu'elle s'intéresse aux organistes, un peu comme on s'intéresse aux animaux dans les zoos, c'est-à-dire, on regarde un peu comment ils vivent, on voit quelles sont leurs mœurs, comme ça, et Marie a fait ça avec énormément de délicatesse et de profondeur. Et donc sa thèse sur la formation des organistes, comment se forme un organiste, mais au sens presque qui sort du limon. Sa thèse a eu tellement de succès lorsqu'elle l'a soutenue à la Sorbonne qu'en fait on lui a demandé d'en faire un livre et par chance ce livre sort aujourd'hui dans le commerce. Et il sera donc en vente, elle en fera une présentation à Ombre Blanche. Et Marie Balthazar sera donc juste après cette présentation samedi à 10h, donc demain à 10h, elle animera cette table ronde à 11h, toujours à Ombre Blanche, entourée d'un parterre d'organistes femmes, donc table ronde 100% femmes. Moi, je serai assis au fond de la salle. Pourquoi est-ce que j'ai voulu aller jusqu'au bout? C'est que si on parle d'un sujet où il faut que la parole soit complètement libérée, ben voilà, allez-y, mesdames. Qu'est-ce que c'est d'être femme quand on est organiste?
Oui,
est-ce que tout simplement ça ne change rien du tout et que qu'on soit femme ou homme, c'est la même chose? Ou bien est-ce que ça change quelque chose? Et si ça change quelque chose, ben quoi? Racontez-nous. Et je suis vraiment très curieux
de
cette table ronde parce qu'évidemment, ça s'inscrit vraiment dans toute une démarche de Marie Balthazar qui est en train de faire un travail de recherche sur justement les organistes japonaises, presque toute femme, je viens de le dire, et ça va probablement se continuer dans des travaux de recherche à l'université à Toulouse. Donc c'est plus qu'une table ronde, c'est un épisode au milieu d'une recherche plus longue. Nous avons également le partenariat avec l'association La Petite qui milite pour la présence des femmes dans le milieu électronique. Et j'ai découvert que justement le milieu de l'électro était encore moins paritaire que nous.
Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Contrairement à ce que moi je croyais naïvement, effectivement les hommes ils sont d'une écrasante majorité.
Alors vous parliez de musique électro et vous avez cité Malvina Meynier, donc qui va donner, ça sera le premier des concerts des Nuits du Jésus, et c'est ce samedi 5 à 22h30. Alors je voulais qu'on l'écoute un peu, alors sa musique, ça se rattache à ce qu'on appelle l'indie électro-pop-rock, je crois qu'il faut dire comme ça. Et donc je voudrais faire un clin d'œil à nos jeunes auditeurs, et pas seulement à eux d'ailleurs, en diffusant un extrait de son album Home, celui qui constitue le programme de son concert de ce samedi soir. Il s'agit du morceau intitulé « Present ». Planant qui donne presque une impression d'apesanteur, c'était Present, titre extrait de l'album Home de Malvina Meynier, que vous pourrez découvrir intégralement lors du concert qu'elle donne ce samedi 5 octobre à 22h30 à l'église du Jésus de Toulouse. En dehors de toutes ces propositions dédiées à l'orgue au féminin, quels sont les autres événements, concerts, temps forts de cette 24e édition, Yves Refsteiner?
Il est évident qu'à cette heure-là, tout le festival est encore devant nous. Donc sur la trentaine de concerts, il en reste quand même encore une grande majorité à venir découvrir. Alors évidemment, nous avons un beau partenariat cette année avec l'Opéra de Montpellier, puisqu'ils nous mettent à disposition leur chœur pour un requiem de forêt qui sera donné une fois mercredi 10 à la cathédrale de Montpellier. Et cette même œuvre de forêt sera reprise samedi 12 au Temple du Salin à 17h. Il n'y aura pas d'orchestre, hein, puisque évidemment, festival d'orgue, donc c'est l'orgue qui reprend la partie d'orchestre, mais ce sont bien les chœurs de l'Opéra de Montpellier qui seront là. Le festival se termine par un grand nom qui, je crois, est assez connu, même des non-organistes, c'est Thierry Esquèche, organiste, improvisateur, compositeur, donc il viendra, il donnera un peu la réplique avec un quatuor de saxophone, avec lequel il travaille déjà en collaboration depuis pas mal d'années, donc ils feront un programme un peu mixte.
Le quatuor Ellipsos.
Le quatuor Ellipsos, exactement, ils feront du Bach, du Piazzolla, du Esquèche, tout ça façon Esquèche, avec une espèce de générosité comme ça, qui le caractérise. Et puis, j'aimerais souligner juste un petit programme qui sort un peu du lot parce que je le trouve très original et d'une incroyable qualité, c'est le programme Prière.
Prière, j'allais en parler.
Parce que j'aime bien la démarche et elle est atypique. C'est un clarinettiste qui s'appelle Yom, c'est son nom de scène, quelqu'un qui vient de la clarinette klezmer et qui aime fabriquer chaque fois des nouveaux partenariats musicaux. Donc en fait, il a travaillé avec plein de gens, des musiciens traditionnels, des trompettistes de jazz, etc. Et il a eu un jour envie de jouer avec un organiste. Puis bon, il n'en connaissait aucun, évidemment, il vient de la clarinette klezmer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il connaisse à l'orgue? Bon. Et donc, il tombe sur Baptiste Florian Marlouvrard, l'un des deux organistes de Saint-Eustache à Paris. Et il l'appelle, il dit « Voilà, est-ce que vous souhaiteriez faire un projet avec moi ?» Et Baptiste Florian, qui est un merveilleux musicien, qui improvise, qui fait tout avec un clavier, il transpose n'importe quelle musique au demi-ton. Enfin, ce sont ces gens qui vous donnent un peu des complexes.
Oui.
Répond « Oui, pourquoi pas, on tente le coup. » Et donc, ils ont fabriqué un continuum musical de presque une heure. La musique ne s'arrête jamais. Avec plein de styles différents qui se mélangent, il y a du Bach qui apparaît à l'horizon, il y a des musiques minimalistes qui passent par là, il y a donc des compositions concrètes de Yom, il y a des passages d'improvisation de Baptiste Florian, il y a des musiques, des mélodies klezmer qui apparaissent. Alors évidemment, on pourrait dire « Ouais, ok, c'est un espèce de crossover, un de plus et tout ». C'est la qualité qui fait la différence. Moi, quand j'ai mis le CD sur la platine, je suis resté pétrifié pendant trois quarts d'heure dans mon canapé et je suis sorti de mon canapé dans mon salon en ayant l'impression d'avoir vécu quelque chose de très profond. C'est-à-dire qu'il y a une émotion dont je peux dire qu'elle transcende les styles et les genres musicaux. Alors, on peut dire, oui, vous aimez le classique, vous n'aimez pas le classique, on est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment deux musiciens qui sont tellement puissants que vraiment, je pense pouvoir dire que la soirée sera assez mémorable.
Eh bien, vous en parlez si bien que je propose qu'on les écoute, ces deux musiciens. Donc on va écouter un extrait de Prière, c'est un morceau intitulé « Pèlerinage ». Thank you. Pèlerinage, morceau extrait du programme Prière, interprété par Yom et Baptiste Florian Marie Ouvrard, que vous pourrez retrouver en concert vendredi 11 octobre à 20h30 à l'église Notre-Dame du Thor de Toulouse. Alors il y a d'autres événements dont je voulais un petit peu parler avec vous. Il y a la traditionnelle nuit de l'orgue, le 12 octobre à Saint-Cernin.
Oui, alors la nuit de l'orgue, c'est l'un des rendez-vous toujours qui est très attendu du public. Saint-Cernin est plein presque chaque année. Alors, la nuit de l'orgue, ça se résume en fait à presque 2h30 de musique. On est passé du dimanche soir au samedi soir, pour de différentes raisons internes. Et donc, le samedi 12, nous commencerons à 20h30 avec. Alors, effectivement, c'est moi qui vais ouvrir la nuit en jouant alors Tubular Bells de Michael Field, grand tube des années 70. Vous tous, vous avez forcément entendu cette musique. Vous connaissez la musique de l'Exorciste, puisque c'est devenu le générique de l'Exorciste. Et donc, je jouerai ça avec mon collègue de toujours, Henri-Charles Cagé, aux percussions. On travaille là, en fait, depuis de nombreuses années, un duo qui mélange les sons des percus avec l'orgue. C'est-à-dire que d'en bas, on ne dissocie rien. C'est-à-dire que les percussions sont juste une extension sonore de l'orgue. C'est un peu notre idée. Et j'avoue qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Après cette œuvre-là, deux autres duos, puisque je voulais terminer, en fait, symboliquement, par la parité la plus absolue et la plus totale, si vous voulez. Évidemment, vous consacrez votre festival à la femme, vous allez pas oublier les mechs quand même, hein, surtout que vous en êtes quelques-uns autour de la table.
On est trop, même. On n'est que des uns. Je suis désolé, mesdames qui nous écoutez, on n'est vraiment donc, pas dans le tempo. Hein, mais bon.
Voilà, donc je me suis dit, on va travailler sur l'idée de duo. Donc moi et Henri-Charles, ben voilà, c'est les deux mecs, ok, ça c'est fait. Ensuite, on a justement un duo à quatre mains. Je parlais de la jeune école russe, deux jeunes organistes qui viennent donc de Saint-Pétersbourg. Et qui joueront soit des œuvres de Naji Hakim pour orgue à quatre mains, soit des transcriptions de différents compositeurs plutôt du XXe siècle. Et ça se terminera par un homme, une femme, un duo orgue et clarinette, avec un collègue que j'aime beaucoup, Brice Montagnou, qui est à la fois directeur de conservatoire dans le Sud-Est et qui est maintenant responsable de la programmation à Saint-Maximin. Et il vient avec son épouse, Eva Villegas, qui est donc une très très bonne clarinettiste.
Alors, comme c'est la tradition depuis quelques années, il y aura également un ciné-concert. Donc, cette année, c'est Au bonheur des dames, le roman de Zola transpose à l'écran par ce très grand cinéaste qui est Julien Duvivier. Ce sera à Saint-Cernin le 10 octobre à 20h30.
Oui, exactement, avec Juan de la Rubia qui vient
Sera à l'orgue. Et puis, alors, je voulais en parler avec vous, il y a un programme The Best of British qui sera donné par Thomas Trotter à Saint-Cernin, mardi 8 octobre à 20h30.
Oui, en fait, j'ai demandé à Thomas Trotter, qui est l'organiste de Birmingham City.
Oui, c'est pas n'importe qui.
Il faut savoir que, bon, c'est quelqu'un qui a une très très grosse carrière, mais il a ce statut qui n'existe pas en France, qui est d'être l'organiste municipal. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être organiste municipal ? Organist of the City of Birmingham. C'est qu'en fait, il y a des orgues dans la plupart des salles des mairies, en plus qu'il y ait des orgues dans les salles
églises,
de concert.
Églises,
donc ça veut dire que là, on est totalement hors cadre église, puisque je crois qu'à Birmingham, il y a à la fois un orgue dans la salle de concert et un orgue dans la mairie. Et donc, Thomas Trotter donne des récitals réguliers, où évidemment la transcription joue un grand rôle. Et là, si vous me laissez une minute, je résume cette assez touchante histoire qu'il y a eu en Angleterre. Au 19e siècle, les Anglais ont construit beaucoup de salles de concert. Ils ont mis chaque fois un immense orgue dedans, dans lequel il y avait un organiste titulaire. C'est resté, puisque Thomas Trotter en est encore aujourd'hui, et l'organiste jouait chaque semaine un récital. Et vous savez ce qu'il faisait ? Je trouve ça génial. Il reprenait les œuvres programmées par l'orchestre et il les transcrivait dans la semaine même. Et on a un virtuose W.T. Best qui regardait le programme le mardi soir qui allait être joué le samedi par l'orchestre, et entre le mardi et le vendredi, il transcrivait tout, et le vendredi, il jouait ça, les mêmes œuvres que l'orchestre. Alors vous me dites, mais c'est quoi l'idée ? De jouer la veille les mêmes pièces que l'orchestre ? Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il jouait pour les pauvres. Il jouait pour les ouvriers des usines. Donc en fait, les ouvriers n'avaient pas les moyens de se payer le ticket d'entrée à l'orchestre, et donc ils pouvaient se payer le ticket de l'entrée au récital d'orgue, mais ils entendaient la même musique. Et donc, il y avait cette chose incroyable, il y avait en fait une ambition de démocratisation culturelle dans le récital d'orgue dans les salles de concert. Et moi, je vous dis, franchement, ça m'a touché. Donc en fait, j'ai demandé à Thomas Trotter, j'ai dit, mais faites-nous un écho de ça. Et ces programmes, alors ça commence avec Meldon Sohn, il y a un peu de transcription de Handel, et puis ça finit par Edward Elgar avec Pomp and Circumstances, une grande marche.
Cette histoire est tellement belle, il faut qu'on rende hommage à nos amis anglais. On aime bien les Anglais dans cette émission, tant qu'il ne s'agit pas de jouer rugby contre eux. Nous allons écouter Thomas Trotter dans une transcription pour orgue du célébrissime Pomp and Circumstances d'Edward Elgar. Thank you. Pomp and Circumstance d'Edward Elgar, véritable second hymne britannique, une transcription pour l'orgue interprétée par Thomas Trotter qui donne donc son concert The Best of British mardi 8 octobre à 20h30 à la Basilique Saint-Sernin. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie auquel je remercie mes amis Serge Chauzy et Robert Pénavert d'avoir participé une fois de plus. Tous mes remerciements aussi à Yves Rechsteiner de nous avoir rendu visite, d'avoir été notre invité d'honneur et de nous avoir présenté avec brio cette 24e édition de Toulouse des Orgues, les femmes et l'orgue, l'orgue au féminin et de manière générale l'orgue en majesté. Voilà tout ce que propose le festival jusqu'au 13 octobre. N'hésitez pas à vous connecter au site de Toulouse des Orgues pour vous renseigner, avoir le détail de la programmation et réserver vos places de concert www.toulouse-les-orgues.org. D'autre part, les représentations de Norma se poursuivent au Théâtre du Capitole jusqu'au 10 octobre. Il en reste encore 4, les samedis 5, mardi 8 et jeudi 10 octobre à 20h, ainsi que ce dimanche 6 à 15h. Pour faire vos réservations, il faut se connecter au site www.theatreducapitole.fr. Notez aussi les concerts que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 20h30, avec un programme dédié à des concertos pour violon de Vivaldi et des pièces de Corelli et Tartini. Renseignements et réservations sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et je signale enfin que la petite messe solennelle de Rossini va être chantée, accompagné au piano et à l'accordéon par les chœurs franco-allemands de Toulouse et Bonne ce samedi 5 octobre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse. Merci à Christophe Aubry d'avoir de nouveau assuré la régie technique de cette émission dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci d'être fidèle à notre écoute et je vous invite vraiment à aller voir tous ces beaux concerts, toutes ces belles représentations d'opéra à Toulouse et à côté. Il faut en profiter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.